Radio Okapi. Journal présenté par Jacques-Yves Molima.
Projet du budget 2022 déclaré recevable hier à l'Assemblée nationale, et ce après la réplique du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé aux préoccupations soulevées par les députés. Ce projet est envoyé à la Commission économique et financière pour approfondissement et toilettage. Rôle des femmes dans la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants comme soldats. Une conférence de haut niveau à ce sujet s'est ouverte hier jeudi ici à Kinshasa. Plusieurs délégués de la société civile et des militaires ont pris part active à ce forum dont on attend les recommandations ce vendredi. Notre invité dans cette édition du journal, c'est le professeur Glombert Loco, DG de la Soteski. La société textile de Kisangani est sur le point de fermer. Sa production est actuellement en baisse et n'arrive pas à couvrir toute charge y afférente. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Voici les nouvelles de ce vendredi 19 novembre sur Radio Okapi. Tout d'abord, parlons de cette collision entre deux baleinières mardi dernier sur le fleuve Congo. Bilan provisoire, 10 corps repêchés jusque-là, des disparus et des rescapés. Selon la ministre Yolande Elébé, porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa, qui confirme cette information, les baleinières Sanzana Moui et Emmanuel seraient entrées en collision vers Mambutuka, en aval du fleuve Congo, non loin du confluent entre la rivière Kasai et le fleuve Congo. Selon la ministre, l'heure est aux recherches des disparus et au recoupement d'informations pour savoir ce qui s'est réellement passé. Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs. Le projet du budget 2022 est déclaré recevable à l'Assemblée nationale. Au cours de la réplique du Premier ministre, les préoccupations soulevées par les élus nationaux lors de la présentation du projet de loi de finances 2022 ont été rencontrées au cours de la plénière de ce jeudi par le Premier ministre. Le projet de loi a été envoyé à la Commission économique et financière pour approfondissement et toilettage. Dans sa réponse, Jean-Michel Samalou Kondé a regroupé les préoccupations soulevées par les députés en 7 thématiques phares, tout en insistant sur la détermination du gouvernement à financer les prochaines élections. Jean-Michel Samalou Kondé est au micro de Michel Kifindangoy.
Pour ce qui est des préoccupations liées au processus électoral, je voudrais préciser que les délais constitutionnels seront respectés. Et à ce propos, votre gouvernement a déjà mis de côté, dans le cadre des économies de cette année, 200 milliards de francs congolais sur des prévisions initiales de 90 milliards pour l'exercice 2021. Et pour l'exercice 2022, nous avons aligné 500 milliards pour nous permettre de couvrir les charges liées au processus électoral. Nous attendons du bureau qui a été récemment installé un plan concret qui nous permettra de démarrer les premières opérations électorales. Dans le même esprit, votre gouvernement a fait de la question du recensement une question cruciale au regard de l'importance qu'elle revêt. C'est ainsi que nous travaillons à la mutualisation des services pour nous permettre de démarrer les opérations de recensement. Je tiens à préciser que l'organisation des élections n'est en rien tenue au résultat du recensement.
Autre nouvelle, la province du Maniema dispose désormais d'un outil qui lui permettra une prise en charge correcte des agents des services publics provinciaux. Une proposition dédiée portant statut des agents des services publics provinciaux vient d'être adoptée ce jeudi 18 novembre par les députés provinciaux du Maniema. Selon son initiateur, Théophile Bouléli Docta, élu de Kabambaré, cette loi est une manière de chercher à avoir une administration stable dans la province. Théophile Bouléli Docta donne l'économie de cette proposition de loi au micro de Florence Kizalunga.
Nous voulons avoir dans la province du Maniema une administration stable et permanente pour un bon fonctionnement de la province. Il me revient de fixer les esprits sur les bien fondés de cet édit. La loi organique du 3 mai 2016 fixa l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. L'article 3 de cette loi précise que les services publics de la province comprennent 1. L'administration rattachée au gouverneur des provinces, 2. L'administration de l'Assemblée provinciale, territoriale. 3. L'administration des ministères provinciaux. Ce sont ces services publics provinciaux qui seront régis par la présente proposition d'édit. Nous ne voulons plus, par exemple, que les agents de la DGRMA soient victimes des remplacements intempestifs ou des autres services publics provinciaux. Vous connaissez vous-même la situation qui était passée au service des mines ici. Il y avait même des arrêtés que certains politiciens ont voulu mettre leurs agents au service des mines pour que c'est un service déconcentré. Comme il est déjà versé dans notre commission politique administrative et juridique, il sera important que toutes les couches de la population contribuent à son élaboration.
Au Congo central, initialement prévu pour hier jeudi à Matadi, la marche des professionnels de santé non médecins a été interdite pour des raisons sécuritaires. Toutefois, la délégation des infirmiers a réussi à déposer son mémorandum au gouvernorat. Il réclame notamment l'augmentation de la prime de risque et l'alignement des nouvelles unités et autres oubliés sur la fiche de paye. Freddy Mpoati, secrétaire exécutif provincial de l'Union des infirmiers du Congo, appelle à l'implication du gouverneur intérimaire du Congo central. Il est au micro de Nana Plurich Mambo.
Excellence, monsieur le gouverneur de la province du Congo central, vous n'êtes pas ignorant qu'il y a 90 jours que les agents de la santé, nos médecins, sont en grève pour réclamer nos droits, entre autres l'augmentation de la prime de risque, alignement de nos NU, nouvelles unités, et les oubliés. Jusque-là, le ministre de la Santé, Bidjé, fonction publique, demeure insensible. Il ne donne pas solution à tout ça. En plus de cela, ici au Congo central, la banque Access nous impute un montant d'argent dans nos primes que nous ne savons pas là où ça va. Pourquoi et ça va où? S'il sait, nous agents de santé, nos médecins, réclamons de nous changer une autre banque, pas la banque Access. Alors nous demandons votre soutien en vous souhaitant bonne compréhension, monsieur le gouverneur. Nous sommes en intersyndical. Les non-médecins, il y a des administratifs et il y a des infirmiers. Il y a tant de marches même dans d'autres provinces. Mais nous ici, comme nous sommes arrivés ici, nous avons vu les policiers qui nous intercalaient, comme nous sommes des bandits ou bien des voleurs. Je ne sais pas pourquoi. Or, nous sommes venus seulement pour déposer notre mémo. Alors, en déposant le mémo, nous avons commis un crime.
À Mbandaka, dans la province de l'Équateur, arrestation hier jeudi de 6 militants membres du mouvement citoyen Génération Consciente. Ils tentaient d'organiser une marche pacifique, mais déjà interdite par le maire de la ville. L'objectif était de solliciter le départ du gouverneur de province. Par ailleurs, l'autorité urbaine a également scellé une chaîne de radio pour une durée de 60 jours. On reproche à ce média de diffuser des émissions à caractère haineux et subversif. Le point avec Paul Richard Malengela.
Joseph Bayoko, président de la Génération Consciente de l'Équateur et organisateur de la marche pacifique interdite, est parmi les personnes arrêtées ce jeudi. Lui et ses camarades ont été interpellés par la police lorsqu'ils ont voulu effectivement marcher, malgré la décision de son report par le maire de la ville. Objectif pour les manifestants, demander au chef de l'État de prendre des mesures exceptionnelles promises en vue de mettre fin à la crise politique à l'Équateur. Mais dans sa réaction à la lettre lui adressée, le maire intérimaire de Mbandaka a exhorté à la patience au lieu de forcer la main à l'autorité qui est déjà saisi de la situation. Raison invoquée par Alain David Bompoko, entre autres le respect des mesures barrières en cette période de pandémie, l'organisation d'une autre marche simultanée par l'Union Sacrée le même jour. Par ailleurs, ces personnes ont été également poursuivies pour incitation à la rébellion à de l'autorité. Étant donné que la veille, ils ont appelé la population à fermer toutes les activités afin de participer à la marche, sous peine de se faire agresser, ajoute la source. C'est parmi les causes qui expliquent également, selon l'autorité, la mise de sous-cellule de la radio-télévision Sarah, la chaîne privée qui a diffusé plusieurs messages subversifs pour une durée de 60 jours. Mbandaka pour Chamalingué, la radio Okapi.
Notez cette information de dernière minute. Nous apprenons qu'une procédure en flagrance a été ouverte hier jeudi même dans la soirée devant la mairie de Mbandaka afin de juger les 6 personnes arrêtées. Nous en saurons plus dans nos prochaines éditions. Conférence de haut niveau sur le rôle des femmes dans la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants comme soldats. Elle a été organisée hier jeudi ici à Kinshasa par les services d'éducation civique, patriotique et d'action sociale, le CECAS, des FRDC et l'Institut d'alerte du Canada pour les enfants, la paix et la sécurité. Plusieurs délégués de la société civile et des militaires ont pris part active à ce forum dont on attend les recommandations ce vendredi. Diafongoï.
Qu'attendre de cette conférence, l'ambassadeur du Canada en RDC, Benoît-Pierre Laramé.
C'est important, je pense qu'un de mes collègues l'a dit d'entrée de jeu, c'est un scandale qu'il y ait encore autant d'enfants qui soient impliqués dans les conflits ici.
Vous vous attendez à quels résultats?
Ce qu'on s'attend de cette rencontre-là ici, c'est qu'évidemment, on veut mettre de l'avant les principes de Vancouver.
Annie Bombay, déléguée de la société civile, explique le rôle de la femme dans la prévention du recrutement d'enfants comme soldats.
La femme peut apporter son appui dans l'éducation des enfants, peut apporter son appui dans la protection. Vous savez, de par la nature de la femme, elle agit instinctivement à protéger la progéniture, que ce soit sa propre progéniture ou bien les enfants de la communauté.
Et l'apport de la femme militaire.
Je suis lieutenant-colonel, diplômé d'état-major, philo di Soloka, directeur des relations publiques de la garde républicaine. En tant que femme militaire, rôle que je peux jouer, c'est-à-dire au fond, l'ennemi utilise les enfants, par exemple. Et ces enfants-là, notre rôle c'est quoi? Vous allez les récupérer. Mais pour les récupérer, il faut aussi tenir compte de votre protection.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, clôture hier jeudi d'une mission de 2 jours d'évaluation de la situation sécuritaire dans la chefferie de Bachou, en territoire de Beni. Organisée par la MONUSCO Grand Nord Kivu, elle a connu la participation des autorités militaires et coutumières de la région. Au cours de la mission, la délégation de la mission onusienne a échangé avec les autorités locales et des représentants des couches sociales afin de trouver ensemble des mécanismes pour renforcer la protection des civils de manière anticipative au regard des attaques répétitives signalées dans la zone. Merolt Hawangasi, qui a conduit cette mission, explique au micro de Grâce Amzati.
C'est toujours pour avoir une lecture beaucoup plus globale de la situation sécuritaire et des mesures qui sont prises et puis comment on pourrait continuer à renforcer ces mesures-là pour anticiper les soucis de protection des civils. La chefferie connaît depuis un certain moment une série d'incidents liés à des groupes armés dont les ADF ici. Cela nécessite que nous puissions continuer nos efforts conjoints avec les autorités. Nous avons discuté également avec les FRDC, aussi avec la société civile. C'est l'approche est intégrée. Nous devons continuer nos efforts dans ce sens et surtout pour renforcer les mécanismes d'alerte et de réponse. Comme vous le savez, la MONUSCO reste toujours aux côtés des autorités. Il y a question de renforcer les séances de dialogue pour que la collaboration soit beaucoup plus renforcée. C'est pas seulement avec la MONUSCO. C'est une préoccupation de tous les jours. Il faut toujours améliorer cette collaboration car notre objectif, c'est de travailler à un environnement beaucoup plus protecteur et personne n'est à écarter.
Et puis, comme vous l'avez suivi sur nos antennes, la région des Grands Lacs tente de sortir de plusieurs décennies de crises sécuritaires avec des graves conséquences humanitaires. Après les génocides de Tutsi au Rwanda, plus d'un million de Hutus ont franchi les frontières de la RDC pour se réfugier dans l'est de l'ex-Zaïre. Une crise humanitaire sans précédent va s'en suivre. Rappel de fait dans ce reportage de Gisèle Cage, rendu par Bernard Denyangui.
L'ONG International Rescue Committee, IRC, a mené 4 études sur la mortalité en RDC entre 1998 et 2004. Selon l'IRC, depuis le début de la Deuxième Guerre en août 1998 jusqu'à la fin du mois d'avril 2004, environ 3,8 millions de personnes auraient péri victimes directes ou indirectes de la guerre et des conflits armés. Après le départ des soldats rwandais en 2003, à l'issue des accords de paix de Lusaka et de Pretoria, l'Est de la RDC n'a jamais retrouvé sa stabilité. L'on compte à ce jour plus de 120 groupes armés locaux et des forces négatives dans l'Est du pays, selon l'organisation des droits de l'homme Human Rights Watch. Les tensions ne fléchissent pas. Dans l'Est du pays, plus de 6000 personnes ont été tuées dans la région de Beni depuis 2013 et plus de 2000 dans la province voisine de l'Ituri. En 2020, selon le porte-parole de la conférence épiscopale, l'abbé Donatien Chollet, lors d'une conférence de presse cette année à Kinshasa, a noté que les tensions armées récurrentes ont provoqué des millions de déplacés internes, ainsi que des réfugiés, provoquant par la même occasion une crise humanitaire. Depuis mai 2021, l'ONG KEA parle de millions de personnes qui sont au bord de la famine en RDC à la suite des conflits.
Chacun de nous peut prendre la responsabilité de changer le monde et de le rendre meilleur, a déclaré la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Madame Bintou Keïta. C'était hier jeudi 18 novembre dans le cadre du lancement des activités cette année de la journée internationale Nelson Mandela. Paraphrasant le secrétaire général Antonio Guterres au sujet de cette journée, la chef de la MONUSCO a rappelé les enseignements de l'icône sud-africaine sur la paix, les droits humains, l'harmonie avec la nature, ainsi que sur la dignité de tous. Suivez ce qu'a expliqué Madame Bintou Keïta, notamment sur l'harmonie entre l'homme et la nature concernant la RDC. Les propos de la représentante spéciale recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Il y a quelques jours, il y a eu un événement au niveau mondial dans lequel a participé le président de la République, M. Tshisekedi, la COP 26. Et dans cette COP 26, l'idée de la relation entre la nature et l'être humain, c'était de faire en sorte qu'on puisse sauver notre planète. Et moi, ce que je ne savais pas en arrivant ici au Congo, c'était que le Congo était central par rapport au niveau mondial en ce qui concerne les poumons de la planète. Donc je crois que c'était très juste que la RDC était présente dans ce forum de Glasgow et avec détermination pour faire en sorte qu'on limite le réchauffement climatique et que tout le monde joigne les efforts de manière à ce qu'on puisse arriver à léguer autre chose à nos enfants et aux générations futures.
Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a été représenté à cette manifestation par la ministre près le président de la République, Madame Nana Manouanina.
Actualité internationale.
Les manifestations contre les coups d'État persistent au Soudan, même au lendemain de la répression sanglante menée mercredi et qui a fait au moins 15 morts. Jeudi 18 novembre était un jour de deuil pour les habitants de Bari, ville jumelle de Khartoum. Au moins 13 personnes habitant ces rues sont mortes mercredi. Des manifestations sporadiques ont eu lieu. Elles ont été à nouveau confrontées à un important déploiement de la police et des miliciens en uniforme ou en civil.
L'invité.
Notre invité ce matin, c'est le professeur Nglobert, loco DG de la Soteski, la société textile de Kisangani est sur le point de fermer. Sa production est actuellement en baisse et n'arrive pas à couvrir toute charge y afférente. Que faire pour sauver cette entreprise? Le professeur Nglobert, loco, s'entretient ici avec Jacques Moukoko, le suivi.
Monsieur le DG de la Soteski, quel état des lieux pouvez-vous faire aujourd'hui de votre entreprise?
La Soteski est en cours de modernisation depuis 2017. Elle a entrepris cette modernisation de son équipement qui est devenu vétuste, investissement. Et les équipements qui ont été mis en place depuis 1974, donc ça fait partie de la technologie des années 70 et 60. Il était très impérieux pour rester compétitif sur le marché, qui est très concurrentiel, de pouvoir moderniser, de suivre la technologie pour rester sur le marché. Donc là, nous avons commencé ce processus, nous avons amorcé depuis 2017, mais ce processus est mis à mal par certaines décisions, notamment la suspension de l'acte juridique qui nous a permis d'accéder aux mesures incitatives prévues par les partenaires stratégiques sur la chaîne de valeur.
En quoi cela vous a été préjudiciable par rapport à la production?
Notre production avec un équipement qui est devenu obsolète est tombée pratiquement de 1 500 000 initial à l'époque où on avait créé l'usine, à 261 000 mètres de production au niveau de tissage, parce que nous sommes dans une structure d'intégration verticale complète. Et en 2020, cette production est tombée à 65 000 mètres. Il était très impérieux pour que nous puissions justement renouveler l'équipement et puis remonter la production. Malheureusement, nous avons amené 10 nouveaux métiers qui pouvaient nous aider à remonter la production vers le niveau diagnostiqué en 2016. Mais lorsque nous avons cherché à déposer la demande de mise en consommation au niveau des douanes, nous avons buté à cette réalité de suspension de l'arrêté d'exonération. Pourtant, ces importations ont été effectuées dans les cadres de ces mesures incitatives qui avaient été convenues entre nous et l'État congolais.
Est-ce que la Soteski produit aujourd'hui? Quelle année de la capacité?
Nous continuons à produire, nous essayons de travailler malgré des problèmes, nous essayons de travailler pour nous maintenir dans l'espace commercial congolais, mais la capacité est fort réduite. Comme je disais tout à l'heure, nous étions à 1 500 000 initialement lorsqu'on avait créé l'usine. Cette capacité est restée résiduelle au niveau du tissage parce que nous avons une structure intégrée. Nous avons la filature qui est à pratiquement 500 000 mètres. Nous avons le tissage qui était à 261 000 mètres et les finissages tenture en pression qui étaient pratiquement à 900 000 mètres. Mais 4 ans après, la filature est restée au même niveau, mais les T7 mètres 65 000 mètres. Alors si on doit produire 65 000 mètres mensuels, donc nous sommes à 780 000 mètres annuels. Donc ça représente 4,3% de la capacité installée initialement et pratiquement très peu de pourcentage. Donc on n'est pas rentable, on est en train de travailler en dessous de ça de rentabilité, de sorte que si on ne prend pas en charge tout ce qui est généré pour que nous puissions assurer les fonctionnements.
Vous venez d'acquérir de nouveaux équipements. Quel pourrait en être l'impact au niveau de la production?
Donc, si nous mettons en œuvre cet équipement, une fois installé, monté, on transfère la technologie, on forme le personnel, nous allons remonter cette production qui est toujours à 65 mm à 211 mm. Et comme c'est un processus qui est graduel, nous pourrons arriver jusqu'à 300 mm si on amène encore d'autres machines, parce que le programme est là, le projet est là. Nous pourrons arriver à 20 métiers, 30 métiers, et nous pourrons atteindre facilement 500 mm ou même dépasser, parce que l'objectif est d'atteindre 900 mm.
Monsieur le DG, quelle lecture faites-vous de ce dîner d'affaires organisé par l'affaire Kitchopo?
J'avais voulu que l'affaire ne soit pas de la Sauteski seule. La Sauteski est implantée dans un réseau territorial qui est la province orientale. C'est donc un patrimoine de la province orientale, pardon, de la province de la Kitchopo. Il faut que tout le monde soit au courant parce qu'il y a beaucoup de désinformations autour de ce qui s'est passé à la Sauteski. Alors, voulu faire passer le message depuis la source, un message vrai, et que chacun puisse comprendre quelle est la problématique et celui qui a une parcelle de pouvoir qui peut agir, qu'il le fasse pour sauver la Sauteski. C'est un patrimoine de la République, particulièrement un patrimoine de la Kitchopo. Et nous devons tous la responsabilité vis-à-vis de la postérité et nous devons la protéger pour qu'elle continue à jouer son rôle de développement et continue à produire des richesses et des profits taxables.
Et que demandez-vous au gouvernement congolais pour vous aider à relancer la production?
Nous demandons d'abord que l'on puisse respecter les textes qui ont été pris et c'est dans le cadre de ce texte-là que nous avons importé le machine. Au moment où il y a même une décision du Conseil d'État, une ordonnance en referait des suspensions, que cette ordonnance soit exécutée pour permettre à Sauteski de continuer de poursuivre sa modernisation et de continuer à donner des emplois, sinon dans une brève échéance, elle va disparaître.
Monsieur le DG, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis.